Oui, difficile.
Un témoignage recueilli par Florence Maurice. De nouvelles frappes russes meurtrières sur l'Ukraine. Elles ont touché la ville d'Odessa dans le sud du pays, faisant 2 morts et 14 blessés selon les services d'urgence. Alors que sur le volet diplomatique, Kiev et ses alliés européens ont célébré hier la validation du prêt de 90 milliards d'euros octroyé par l'UE après des mois de blocage par la Hongrie. L'Ukraine attendait cette aide financière pour...
Radio G. www.radio-g.fr.
Bienvenue dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que nous pourrons arroser et voir grandir. Bonjour Sophie.
Bonjour Karine. Nous retrouvons tous les vendredis à 9h10 des semaines impaires afin de cultiver notre jardin intérieur. Si vous souhaitez réagir sur notre émission, vous pouvez le faire sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. Alors aujourd'hui, nous recevons qui, Karine?
Sophie numéro 2.
Sophie numéro 2,
bonjour. Bonjour Sophie. Et bonjour. Dominique qui est là avec bonjour. Nous également. Bonjour, bonjour Dominique.
Bonjour. Bonjour Sophie.
Alors Sophie, tu vas nous parler de l'atelier de Sophie.
Oui, alors...
Et dis-nous tout. Comment t'en es venue là? Comment, voilà, ton parcours?
Alors... Moi, j'étais d'abord sage-femme.
Ah oui.
Pendant 15 ans.
Mm-hmm.
Et puis, après, j'ai évolué vers le métier d'enseignante. Et particulièrement les 15 dernières années en maternelle. Et je suis rentrée dans l'éducation nationale avec une préoccupation d'arriver suite à l'observation de mes enfants à l'école. En fait, je me suis aperçue que une qualité que je pensais que l'école développait et que j'avais pas l'impression qu'elle se développait tellement, c'était l'autonomie des enfants. Et donc, comme j'aime quand même pas trop critiquer ce que je ne connais pas, ça m'a quand même poussée à aller voir ce qui se passait dans l'éducation nationale. J'ai passé le concours et je suis arrivée à Angers. Et quand j'ai passé le concours sur le thème de l'autonomie, ça n'a pas plu du tout. Ça n'a pas du tout été accueilli comme étant une vertu à développer. Parce que j'étais déjà très surprise, parce que j'avais fait un dossier sur l'autonomie qui parlait de Maria Montessori, de Françoise Dolto, des libres enfants de Summer Hill. C'est vraiment voilà des pédagogies très actives, très particulières. Et non, ça n'a pas plu du tout, mais je n'ai pas renoncé à mon projet. Et c'est grâce à une vidéo que j'ai reçue d'une amie sur le travail de Céline Alvarez, qui était aussi une enseignante et qui m'a orientée vers la pédagogie en atelier autonome. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait le faire même dans l'école publique. Voilà, pas que dans l'école privée. Donc, je me suis lancée grâce à une chute dans mon escalier où je me suis cassé le bras. J'ai eu 6 semaines de congé, donc j'ai pu travailler. Et je suis la rentrée qui a suivi. J'ai participé au premier forum de Céline Alvarez à Paris et j'ai orienté ma classe, donc organisée pour travailler en atelier autonome. Pendant 7 ans, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Premier changement, mon comportement. Et puis après, amener du matériel, une ambiance de classe. Et grâce à l'ATSEM avec qui je travaillais, Laurine, pour pas citer, parce que vraiment c'est grâce à elle, on a pu mettre en place ce projet. Et j'ai été plus que surprise, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, j'ai vu des choses merveilleuses chez les enfants, une autonomie incroyable, des apprentissages qui dépassaient tout ce que j'avais pu imaginer. Et après, l'heure de la retraite a sonné. Et puis j'ai laissé passer un petit peu de temps pour récupérer. Et puis j'ai décidé de lancer l'atelier de Sophie. Donc j'ai recréé dans un espace des ateliers autonomes et avec le matériel nécessaire. Et puis vais accueillir des enfants à partir de 2 ans et demi. Particulièrement peut-être ceux qui justement à 2 ans et demi sont poussés par l'envie de faire tout seul, mais sont des fois encore en crèche, donc pas forcément sont un peu grands pour la crèche, mais il n'y a pas forcément de place à l'école pour les accueillir. Voilà, moi je propose un endroit où ils peuvent trouver le matériel dans une organisation vraiment très précise, en sécurité. Et où ils vont pouvoir pratiquer et développer leur sens au départ. Mais il n'y a pas que les enfants petits, bon, la vie pratique, les développements des sens qui vont après amener l'enfant vers l'apprentissage des mathématiques et de la lecture, concerner tous les enfants de l'âge de la maternelle. Mais je peux aussi proposer des enfants qui se retrouvent en difficulté, surtout en numération, qui ont besoin de manipuler, qui ont besoin vraiment de pratiquer et de répéter des choses. Voilà, ils peuvent venir pour l'apprentissage aussi de la lecture, quand les débuts sont des fois difficiles, avec le manque de confiance, qui est très important de pouvoir l'acquérir. Et puis j'ai aussi une proposition pour des adultes, j'en ai en ce moment, pour les adultes qui ont des difficultés avec les nombres dans leur vie quotidienne. C'est-à-dire rendre la monnaie, calculer des pourcentages, pour faire des tableaux de proportionnalité. Voilà. Après, j'ai aussi prévu de proposer mon aide pour accompagner les enseignants qui souhaiteraient, en maternelle, mettre en place ces ateliers autonomes. Parce que je me suis retrouvée au départ pas toute seule pour le faire. Pendant 2 ans, j'ai bossé énormément. J'aime travailler. J'aime la pédagogie et j'aime travailler, mais vraiment j'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Et un certain nombre d'enseignants sont venus quand ils ne travaillaient pas à 100%, ils prenaient sur leur temps pour venir voir dans ma classe comment ça se passait. Et en fait, j'ai découvert que beaucoup d'enseignants avaient envie de changer leur façon de travailler et d'aller vers ces ateliers autonomes qui respectent parfaitement le rythme de chaque enfant. Et donc, mais par contre, des fois, ils n'osent pas passer le cap et ont envie d'un petit peu de guide, quoi. Donc, voilà, moi j'ai la pratique. Je sais comment on les met en place, quel matériel il faut, l'organisation du mobilier, et puis la gestion de la classe, voilà, et le suivi des enfants. Ça, je l'ai fait pendant 7 ans, donc je peux effectivement accompagner. Le mot accompagner, c'est toujours le mot que j'aime utiliser, que ce soit pour les enfants, les adultes.
Voilà. Et comment ils acquièrent de l'autonomie, les enfants, à 2 ans et demi, parce que c'est tôt quand même, non?
Ah, ben, en fait, l'autonomie, elle arrive quand ils savent qu'ils peuvent déjà trouver ce qu'ils cherchent. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'à 2 ans, 2 ans et demi, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est faire tout seul. Et ils le disent, en général. Faire tout seul, ils repoussent souvent leur mère, les grand-mères aussi, qui sont souvent très présentes. Et ils les repoussent parce qu'ils veulent apprendre à s'habiller tout seul, enfiler les chaussures tout seul, les enlever tout seul, pouvoir attacher leur manteau tout seul, c'est les fermetures éclair, les boutons, ils veulent se servir à boire tout seul, se servir à manger tout seul. Ils veulent pouvoir balayer s'il y a des miettes par terre. Vous voyez, toute cette vie-là, c'est quelque chose qui, à partir du moment où ils vont trouver le matériel qui leur permet de l'apprendre, va leur procurer la confiance en eux, parce qu'ils vont savoir faire, l'autonomie dans leur vie. Vous savez, moi je dis souvent aux parents, quand leurs enfants commencent à l'école maternelle à 3 ans, celui qui sait se déshabiller tout seul pour aller aux toilettes et se rhabiller tout seul, il arrive et il n'y a pas trop d'angoisse. Parce que quand on va aux toilettes, il se retrouve dans une classe où il n'y a que des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. La maîtresse et la tienne vont arriver aux toilettes, il va y avoir 25, 26, 27, 28 enfants. Donc tous ceux qui sont autonomes, qui savent se déshabiller tout seul et puis aller aux toilettes tout seul, bah, ils ne sont pas inquiets, hein. C'est pas grave si la maîtresse elle est occupée, c'est pas grave si la tsam est occupée, eux ils savent faire. Mais celui qui sait pas faire, il y a beaucoup plus d'inquiétude parce que ben des fois il peut se faire pipi dessus parce que simplement ben il attend et puis c'est trop tard. Donc vous voyez, c'est plein de petits gestes au départ dans leur vie, de la vie quotidienne. Et ça, ben des fois on prend pas le temps, des fois à la maison parce que ben quand papa maman travaille, on prend pas forcément le temps de leur laisser faire. Il faut leur laisser le temps de leur laisser faire, mais il faut les accompagner, il faut leur montrer, il faut prendre le temps de montrer 1 fois, 2 fois, 10 fois s'il faut, puis ils essayent. Puis après, on peut éventuellement proposer leur aide s'il y a besoin, mais petit à petit, il faut les laisser faire. Et puis, mais quand ils sont dans un endroit où ils savent qu'ils ont le temps pour faire et le matériel complètement adapté, ben ils font et ils apprennent. Et plus ils apprennent, plus ils vont après vers les apprentissages, on va dire, plus classiques. Ça va être plutôt en mathématiques et en apprentissage de lecture. Mais ça commence d'abord par toutes les manipulations. Les mains sont complètement reliées au cerveau, donc les apprentissages passent par la main. Donc, ils vont apprendre, j'ai par exemple des ateliers très simples, enfiler des gants. Vous voyez, c'est très simple, enfiler des gants. Pour un enfant, c'est compliqué. Oui. Un doigt dans chaque maison, moi je dis toujours dans chaque maison. Bon, ben voilà, c'est juste un atelier comme ça qu'il retrouve. Et l'enfant est capable de passer 5-6 minutes à essayer de bien mettre chaque doigt dans chaque maison, dans les doigts. À partir du moment où il réussit et qu'il a toujours tous ces ateliers-là à portée de main, c'est-à-dire que c'est lui qui va choisir. Au départ, je montre les ateliers.
Ils vont pas chercher n'importe où, n'importe comment. Au départ, je montre comment on fait. En silence. Je nomme le matériel parce que le langage est très important. Et puis après, quand j'ai montré, ils ont le droit de le prendre et de le garder autant de temps qu'ils veulent. Mmh. Voilà. Et après, ils doivent le remettre dans le plateau, parce que c'est des petits plateaux, et le remettre à sa place pour qu'un autre enfant puisse le prendre. Donc, très souvent, j'ai entendu dire comme critique que c'était élitiste, individualiste. Non, on est dans une collectivité. Et dans mon atelier, je souhaite faire des petits groupes de 4 ou 5 enfants, différents âges, parce qu'on apprend de tous les partenaires qui sont dans la même pièce. Donc, à partir du moment où ils ont vu un atelier, ils peuvent le prendre ou le garder autant de temps qu'ils veulent. Voilà. Et au fur et à mesure qu'ils apprennent, ils vont acquérir de nouvelles compétences et avancer. Voilà.
Bah moi, je dis que le ballet, ça doit passer, non ? Enfin, ça doit leur... Non ? Parce qu'avoir envie de passer le ballet à 2 ans et demi, je ne suis pas sûre qu'à 18 ans, après, ils aient encore envie. Je ne sais pas s'ils se battent. Non, mais c'est bien de leur apprendre. Mais
non, moi, ça le fait. En général, ils aiment beaucoup passer le ballet.
Ah, c'est vrai ?
Oui, ils aiment beaucoup balayer. Oui, oui. Vous m'avez parlé à mes petits-enfants, ils ont beaucoup balayé. Parce que,
ah ouais. Oui. Ah, c'est marrant, c'est pas la première chose que j'ai envie de faire, moi. Voilà, mais en balayer, fait, parce que je suis adulte. Et
voilà. Nettoyer les tables.
C'est vrai.
Ils aiment beaucoup ça. Ah ouais. Voilà. Les enfants, à cet âge-là, ils ont, petits comme ça, à 3 ans, ils ont une période très sensible sur l'ordre. Mm-hmm. Donc, s'ils sont dans un environnement qui est bien ordonné, ils vont respecter totalement cet ordre. Ouais. Et ils aiment ça. Ils vont mettre la pagaille plus tard.
Oui, parce que puis il y a l'effet de mimétisme aussi, je pense. On a envie de faire comme les grands, comme.
Oui, ouais. Oui. Mais il y a un grand, grand respect du matériel quand c'est apporté. Et puis, passer 7 ans en atelier autonome dans la classe avec, on va dire, des enfants, le moins que j'ai eu, c'est 25, ça pouvait monter 27, 28 enfants, avec des enfants aussi avec des troubles du spectre autistique dans la classe. J'avais peut-être, je sais pas, une 50aine de postes différents. Ça allait de 4 pièces à plus de 100 pièces. Jamais il n'a manqué une seule pièce de puzzle. Mmh. Si jamais il se trouvait qu'il en manquait un moment, l'enfant en faisait un, il en perdait un, on arrêtait l'atelier, on avait une petite clochette. Je disais, on a besoin de vous, on a besoin de vous parce qu'il manque une pièce. Donc tout de suite on disait, j'entendais, je vais le faire, je vais chercher. On cherchait pendant, allez, 2 minutes peut-être, on cherchait. Si on ne trouvait pas cette pièce, on posait le puzzle sur un bureau et on disait, il est là, mais forcément, avant la fin de la journée, on avait trouvé la pièce, parce que ça concernait tout le monde. Et ça, c'est très, très important. Mmh. Voilà.
Et la classe autonomie, ça s'adresse qu'aux enfants maternels, ou ça peut aussi, vous avez déjà essayé au collège, ou autonome, c'est
oui.
Plus par rapport à la vie quotidienne, ou aussi, ça peut être aussi par rapport à l'apprentissage.
Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qui se rapproche le plus, et j'utilise du matériel qu'a créé Maria Montessori, donc les écoles Montessori existent. Moi, je n'ai pas la formation d'éducatrice Montessori. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas le mot Montessori dedans, mais j'en utilise parce que Maria Montessori, qui était un médecin, a fait un matériel scientifique extraordinaire. C'est avec tout le matériel de manipulation en sensoriel et tout en base 10, par exemple. Et ce qui, intuitivement, amène les enfants dans notre système à nous, qui est un système de base 10 en mathématiques. Donc, ce matériel-là, il a été complété par d'autres médecins, ou Maria Montessori en a pris aussi d'autres médecins qui en avaient préparé avant elle. Mais, donc ça, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Mais, donc il y a des formations sur l'autonomie qui poursuit après en élémentaire et après en collège. Mais je ne suis pas allée, moi, pratiquer là. Mmh. Donc, j'ai fait du soutien scolaire à des enfants qui étaient en CP, CE1 ou CE2, pour qui la numération n'était pas passée. Beaucoup d'enfants utilisent des fichiers en mathématiques en élémentaire et beaucoup arrivent à passer à l'abstraction, mais certains n'y arrivent pas et il faut revenir à la manipulation. Donc, ces enfants-là peuvent très bien se retrouver dans mon atelier et pouvoir en faire ça.
Bon bah super Sophie, merci. On se retrouve tout de suite après là, on va mettre une petite pause musicale et tu as choisi une chanson de Drono qui est magnifique, c'est Quand qu'on va ouf. À tout de suite.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégoulasse. C'est même pas moi qui parlais,
Moi je répondais à Arthur qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Faites-les te voir à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensables, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Ben, si l'école, ça rendait les hommes libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Mais maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
Alors, nous sommes dans l'émission, enfin de retour dans l'émission 30 minutes de bonheur, où nous recevons Sophie, de l'atelier de Sophie. Alors, j'ai peut-être une question qui fâche, mais bon, c'est pour lancer un peu la discussion.
Le débat.
Le débat. Est-ce que c'est pas vouloir les rendre adultes trop tôt, les jeunes enfants? Parce que 2 ans et demi, passer le balai, faire ci, faire ça, est-ce qu'on les prive pas de leur... de leur côté enfantin, où ils sont innocents et ils jouent et voilà. Je lance le débat.
Alors, la question, ça serait peut-être de savoir qu'est-ce qu'on met derrière le mot jouer.
Oui, mais pour moi, passer le balai, c'est pas jouer, quoi. C'est le monde des adultes, moi.
Ben oui, mais les enfants, à cet âge-là, ce qu'ils aiment, c'est imiter.
Oui.
Beaucoup.
Oui, c'est ce qu'on
Donc, forcément, pour eux, de passer le balai, c'est jouer. Et en plus, c'est quelque chose qui est réel, qui est vrai pour eux, passer le balai. Alors qu'on leur met souvent des jeux où il faut qu'ils fassent semblant ou autre. Non, là, c'est pour de vrai. C'est, on renverse un verre, on va chercher une éponge et puis on éponge. Si on a renversé chez un atelier où il y a une petite balayette, une pelle et des graines, des lentilles. Donc les lentilles, on les met par terre et on les balaye. D'accord. Et il y a une efficacité avec un contrôle des mains, une qui pousse, l'autre qui recueille, qui renverse après dans le pot, etc. Tout ça, c'est quelque chose qu'ils doivent dominer, qu'ils apprennent. Et là, c'est des vrais des vraies situations qui les amènent à
terminer. Oui, justement, c'est des situations. Alors, je suis désolée, voilà. Je fais une fixette sur le ménage, mais comme j'ai horreur de ça...
pour ça, j'aurais pas aimé, justement, étant petite. C'est peut-être ça.
Oui, c'est pas ce que j'ai fait. Mais là, du coup, la lecture... Enfin, je sais pas à partir de quel âge ils apprennent à lire. Normalement, c'est CP. Là, avec la méthode...
C'est-à-dire qu'ils commencent à 3 ans, on peut commencer déjà à leur faire entendre des sons. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, je vais donner une situation concrète... On sort 3 objets différents et puis on les nomme, par exemple, on va dire otarie, ballon, voiture. On va dire otarie, ballon, voiture. Puis on va lui demander lequel commence par le son V. Voilà, juste ça.
Oui.
Ils doivent le désigner. Mm-hmm. Voilà, et petit à petit, l'oreille se fait à entendre. Puis après, on associera la lettre qui fait le son V plus tard. Voilà, mais déjà, rien que d'entendre le son qui démarre, ça les prépare. Et ça, c'est à 3 ans, pour ceux qui sont prêts.
Oui, c'est ça, pour être
prêt. Voilà, mais il y a des enfants qui sont... Que... On le voit. Après, oui. C'est l'habitude qu'on a de voir les enfants. Et, les enfants, d'eux-mêmes, ils vont aller chercher ce dont ils ont besoin.
Oui.
Donc, c'est l'intérêt des classes multi-âges, c'est-à-dire qu'ils voient les plus grands faire quelque chose que certains vont dire, ça me tente, quoi. Voilà, j'ai envie aussi d'aller faire ça. En général, ils se trompent pas trop dans ce qu'ils, dans leur désir, on va dire. Je me souviens d'une fois une de mes élèves qui était en grande section et elle vient me chercher puis elle me dit, tu vois Sophie, je voudrais faire cet atelier-là. Alors je lui dis, ok, je prends note. Tu voudrais faire celui-là. Alors tu vois, pour pouvoir faire celui-là, il faut d'abord que tu aies fait celui-là, celui-là et celui-là. Il y en avait 3 avant. Et je lui dis, quand tu auras fait ces 3-là. Celui-là, tu pourras le prendre. Moi, je pourrais te le montrer, je pourrais le faire. Elle a pas mis 15 jours à faire les 3 autres. Parce qu'elle avait un but. Elle a envie de faire quelque chose, et ça, ça lui tentait. Mais c'est aussi qu'elle avait vu quelqu'un dans la classe faire cet atelier-là, et ça lui avait parlé, ça avait résonné chez elle. Et donc, ça l'a poussé. Et ça, c'est l'intérêt. Le premier que j'ai eu de grande section qui a appris à lire, c'est lui qui a déclenché tout dans la classe. Oui. Parce que l'adulte, c'est normal qu'il lise. Donc les enfants ne se sentent pas en capacité d'apprendre à lire. Mais à partir du moment où ils voient un de leurs camarades qui tout d'un coup se met à lire, tout d'un coup ils se disent mais c'est possible alors, c'est possible.
Mais ça alors, pardon, je te coupe, mais si c'est l'enfant qui veut, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est bête ce que je vais dire, mais que la nouvelle génération de parents veulent que leur enfant il sache lire à 3 ans, qu'il soit hyper, hyper...
Il y en a toujours eu des comme ça.
Oui.
Oui,
mais c'est qu'on le voit plus. Pas leur laisser leur innocence. Enfin voilà leur.
Oui, mais
si c'est l'enfant qui demande, je suis ok. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les parents maintenant veulent en fait pas faire des bêtes de foire, mais développer les capacités très tôt, quoi.
Tout à fait. Ce qui est important aussi pour à ma place, c'est de détecter aussi ce qui vient du désir de l'enfant et du désir des parents.
Oui, bah oui.
Mais c'est pour ça que dans ces classes-là. Il y a énormément d'ateliers proposés aux enfants et on passe beaucoup de temps à les observer, voir vers où ils vont. Il y a des enfants qui spontanément ne vont pas trop vers les ateliers parce qu'ils sont déjà, ils ont déjà l'habitude qu'on fasse pour eux. Donc ils ont presque écrasé déjà leur désir. Donc il faut arriver à les amener vers l'envie d'y aller, qu'ils aient aussi confiance en eux dans le dire je me mets en difficulté avec quelque chose quoi. Donc ça c'est aussi le travail de notre accompagnement d'adultes avec ces enfants. Après le désir des parents, bon ça c'est quelque chose qui existe. Moi on m'a fait rentrer à 5 ans à l'école. Alors je sais ce que c'est quoi. Voilà, j'étais pas du tout prête mais simplement parce que ma sœur était rentrée à 5 ans sachant lire, moi on a dit l'autre d'après elle va faire pareil
quoi. Oui.
Bon et ben c'était très très difficile pour moi. Donc je sais très bien ce que c'est que le désir des parents. Je l'ai complètement vécu.
En fait retrouver son autonomie, ça serait retrouver son désir. Et son propre besoin, c'est ça?
Oui, je pense que c'est vraiment... On voit bien les enfants, des fois je disais aux parents, quand l'enfant tirait sur le vêtement, laisse faire maman, je veux faire tout seul. Et que, non, non, on n'a pas le temps. Je
veux faire, oui, c'est ça.
Voilà,
ça, oui.
C'est, mais ça, ça se passe chez tout le monde. Oui. Il arrive un moment, l'enfant il cède. S'il voit que le parent ne laisse pas faire, il va abandonner. Oui. Et peut-être qu'il ne retrouvera pas ce goût-là. Donc, effectivement, à ce moment-là, tout,
tout l'accompagnement qu'on va mettre en place, c'est lui donner, lui faire remonter ce désir-là de faire.
Voilà. Par contre, je reprendrai, il n'y a pas forcément que les parents, il peut y avoir aussi des frères et sœurs qui sont au-dessus, qui ne laissent pas faire les frères et sœurs en dessous. Ah, moi, chez moi, personnellement, ma fille n'a jamais laissé son frère faire. Et moi aussi. Hein.
Oui,
moi,
mais donc sœur, ça veut dire, Sophie, qu'en fait, en tant qu'adulte, on peut y aller pour retrouver son désir et son besoin, pour retrouver son autonomie et sa responsabilisation dans une société qui nous enlève complètement ça.
C'est chouette. Ça.
On va tous aller à l'atelier de Sophie.
Non, mais c'est vrai. Et moi, je sais qu'en tant que parent, je disais, laisse-le faire, mais elle voulait pas. Non, il fait mal la vaisselle. Non, il fait. Donc, bah, lui, aujourd'hui, 19 ans, il fait pas plus, hein. Je suis obligée de dire si c'est bien. Non mais c'est ça, c'est retrouver et elle voulait tout faire et moi je faisais tout à ma sœur.
Oui.
Et ma sœur c'est vrai qu'il y a des choses en tant qu'adulte qu'elle m'a appelée pour des trucs, je me suis dit, ouais, c'est mais on croit aider l'autre mais on n'aide pas.
Mais c'est vrai. Tout à fait. Mais dans le fait qu'ils laissent vivre ce désir et qu'ils vont s'il y a 2 ans, c'est avec effectivement, beaucoup sur le ménage et les transvasements, etc., manipulation des doigts, chaque âge va avoir sa attirance. Maria Montessori disait qu'ils avaient des périodes sensibles d'apprentissage. Donc, l'ordre, la manipulation. Mais après, en grandissant, ça va aller vers autre chose et ils vont abandonner ce qu'ils savent déjà faire. Voilà. Mais, c'est quand même plus facile d'abandonner quelque chose en l'ayant mis dans son escarcelle plutôt qu'en se disant je suis passée à côté quoi. Voilà, parce que chaque fois qu'on réussit quelque chose qu'on sait faire et qu'on se dit bon ça c'est bon je peux passer à autre chose, on gagne en confiance, on gagne en qualité pour aborder une autre situation difficile qui va se proposer après.
Non mais ça c'est chouette par contre pour la confiance.
Ah ben tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que il y a 3 choses qui se travaillent beaucoup à ce moment-là c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire la mémoire du travail. C'est-à-dire qu'un enfant quand il prend son atelier qu'on lui a montré, il a la mémoire de ce qu'il doit faire.
Oui.
Donc ça c'est très important, ça lui fait travailler la mémoire. Deuxièmement, il apprend à ne pas être dérangé par ce qui se passe autour. Donc l'attention, la concentration, on en entend beaucoup parler en ce moment. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire que si ça fonctionne pas, il faut qu'il soit créatif pour chercher une autre façon de faire. Et ça, à leur âge, c'est compliqué. J'avais un exemple toujours dans ma classe que je voyais, c'était, il y avait des tiroirs. Donc ils prenaient des tiroirs ou des plateaux. Il y avait un endroit où on rangeait les plateaux, ça se rangeait sur le côté la longueur, le plus large. Et puis il y avait un autre meuble, il fallait les tourner pour les faire rentrer le côté le plus étroit, la largeur. Mais les petits à 2 ans et demi, 3 ans, souvent, quand ils avaient face à ce meuble qui était plus étroit, ils gardaient le tiroir dans ce sens-là, dans le sens de la longueur, et ils tapaient. En fait, il aurait fallu que le meuble s'adapte au tiroir. Voilà. Et ils tapaient. Et on les laissait faire. Ils se retrouvaient dans cette situation où, c'était pas possible. Il fallait qu'à un moment donné, hop, il tournait et il l'enfilait. Voilà. Ça, c'est exactement ce qu'on doit leur laisser explorer.
Ouais. Non, mais voilà. C'est super. L'adulte, en fin de compte, il faut qu'il apprenne à faire confiance à l'enfant et à se taire. Donc, tu étais plutôt là pour observer et réussir à pas faire à la place de.
C'est pour ça que j'ai dit que la première chose que j'ai changée, c'est mon comportement.
Oui. Merci Sophie. Alors où est-ce qu'on peut, parce que c'est bientôt la fin, ça passe vite, où est-ce qu'on peut te trouver?
Alors j'ai une boîte mail pour me trouver, donc tout en minuscule, sophie.mazalera, alors ça c'est long, mazalerat@mailo.com.
Super, merci Sophie.
Donc ça, c'est une adresse mail pour pouvoir...
Oui, c'est une adresse mail que pour le travail.
D'accord.
Voilà.
Bon, super. En tout cas, merci Sophie, c'était très intéressant.
Merci de votre accueil. Vraiment, ça fait un grand plaisir.
Et puis, ça passe trop vite, comme d'habitude. Merci Dominique aussi.
Merci.
Bonsoir
les filles.
Bonne journée. Bonne journée à tous. It might seem crazy what I'm about.